VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Violence en République démocratique du Congo. Le mois de janvier 2020 a été le plus meurtrier dans l'est de la RDC depuis juin 2017, avec 210 morts parmi les civils. C'est ce qu'indique un rapport du KST, le baromètre sécuritaire du Kivu, qui met en cause la capacité de l'armée régulière congolaise face aux groupes armés. Les 210 décès violents en janvier ont été enregistrés dans les deux provinces de la région du Kivu, à savoir le Nord Kivu et le Sud Kivu, où quatre foyers de tension restent particulièrement actifs, notamment dans le territoire de Beni, selon le rapport du KST mercredi. Le baromètre sécuritaire du Kivu est un projet mené conjointement par le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York et Human Rights Watch, l'ONG de défense des droits humains, également basée à New York. Au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Nji, a accusé des ONG et des médias de comploter contre l'État. Des allégations formulées lors d'un point de presse. Selon le ministre, les organisations en question déstabilisent le Cameroun avec des financements occultes émanant de l'intérieur et de l'extérieur du pays. La réaction des médias et des ONG indexées ne s'est pas fait attendre. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
Les ONG, Human Rights Watch, Amnesty International, International Crisis Group, OCHA, REDAC et bien d'autres sont engagés dans une démarche conspirationniste contre le Cameroun et contre les forces de défense et de sécurité.
L'une des ONG nommées a tout fait de réagir. 24 heures seulement après cette déclaration du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Nji, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, basé au Cameroun, a réfuté les propos tenus par le ministre. Maximilienne Gombe, directrice exécutive du REDAC.
Il y aura une plainte qui sera déposée contre M. Atanga Nji pour qu'il démontre comment nous sommes parmi des ONG qui déstabilisent les institutions. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un ministre de la République rentre dans ce genre de calomnie.
Le ministre de l'administration territoriale n'a eu aucune réserve sur les financements des agences onusiennes, des ONG internationales et locales qui suivent de près la crise en zone anglophone. Paul Atanga Nji.
Ces ONG aux ordres ont reçu plus de 5 milliards de francs CFA des réseaux occultes à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun pour déstabiliser les institutions républicaines, diffuser régulièrement dans certains médias à leur solde et dans les réseaux sociaux des informations tronquées pour discréditer la gestion de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest par le gouvernement.
Le journal Le Jour a été cité par le ministre parmi les quatre médias locaux à capitaux privés qui, citation, relaient les rapports erronés contre les forces de défense et de sécurité. Haman Mana, directeur de publication du journal Le Jour.
Je n'accepterai pas que quelqu'un, parce qu'il a eu un matin un décret, plus du chef de l'État, vienne parler ainsi de moi et de mon travail. J'ai dû interdire à M. Atanga Nji de parler de mon journal en ces termes ordurés.
Selon l'analyste politique Antoine Awana, cette détérioration des rapports entre le gouvernement, certains médias privés et les ONG est l'une des conséquences de la crise anglophone qui perdure depuis 3 ans.
Ces ONG ne devraient pas normalement s'immiscer dans des affaires purement intérieures au Cameroun, entre autres matières, des problèmes politiques et des problèmes purement sécuritaires. Les rapports de Human Rights Watch, ces rapports doivent être validé par les pouvoirs publics avant d'être publié. D'où vient-il du fait que lorsque ce rapport crée des problèmes, c'est à ce moment-là que le gouvernement sort pour essayer un peu d'apporter des démentis, alors que c'est eux-mêmes qui ont validé ce rapport.
Un délai de 60 jours a été fixé aux ONG exerçant dans le pays pour déposer leur rapport d'activité des 3 dernières années, y compris celle du système des Nations Unies. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Violence intercommunautaire dans le Sahel. Au Mali, 10 personnes ont été tuées par des hommes armés non identifiés dans le village de Kourkanda, proche du Burkina Faso. La localité a été également incendiée par les assaillants. Plus de détails avec Bagassi Koura.
Vers le crépuscule, ils sont venus en petit groupe sur des motos, tous armés. Ils ont commencé à faire des tours en moto autour de petits villages Ce n'est que vers 20h le 9 mars qu'ils ont commencé à attaquer les villages, a dit à l'AFP un conseiller du chef du village de Kourkanda, Youssouf Togo. Ils se sont ensuite regroupés et ont attaqué et incendié notre village, a-t-il ajouté. Il y a eu 10 morts, le village est incendié et personne ne sait d'où viennent les assaillants, a dit un responsable de l'administration de Bankass, la ville la plus proche, Yana Dolo, dont des agents ont incendié les lieux. Kourkanda est situé dans la même région que le village martyr d'Ogosagou, où 31 civils peuls ont été tués le 14 février, un an après le massacre de 160 membres de cette même communauté peul. En mars 2019, le centre du Mali est le théâtre d'un grand nombre de violences depuis 2015. Les attaques, souvent suivies de représailles, se sont multipliées entre les peuls, majoritairement élevés, et les ethnies Bambara et Dogon, qui pratiquent essentiellement l'agriculture.
En Guinée, des experts ouest-africains en mission pour aider à sortir le pays de la crise politique recommandent de retirer plus de 2 millions de noms des listes électorales initialement retenues pour un référendum couplé à des élections législatives. Les précisions avec Nani Talani.
Selon un document consulté hier par l'AFP, ce nombre représente le tiers des noms figurant dans le fichier qui devait servir à un référendum constitutionnel et des élections parlementaires à l'origine prévues le 1er mars. Ces experts ont relevé que sur la liste des 7,764 millions d'électeurs communiqués par la Commission électorale guinéenne, 2 millions ne disposent d'aucune pièce justificative. La mission recommande vivement le retrait de ces électeurs. Elle relève également plus de 38 000 cas de doublons potentiels sur les listes et préconise un réexamen de ces cas pour une nouvelle validation. La commission électorale a adopté les recommandations des experts, a affirmé son président Amadou Salifou Kébé sur Facebook, sans indiquer l'effet qu'une telle mise en œuvre aurait sur le nouveau calendrier électoral. Le pouvoir a reporté s'inédier au dernier moment le scrutin, dans un contexte de fortes tensions, de vives contestations de la part de l'opposition et de critiques émanant de la communauté internationale. L'opposition dénonçait aussi un fichier électoral truqué et disproportionné par rapport à la population du pays et avait décidé de boycotter les scrutins du 1er mars.
Impasse politique en Guinée-Bissau. Le président autoproclamé bissau-guinéen Oumaro Sissoko Embalo poursuit sa tournée en Afrique de l'Ouest pour asseoir sa légitimité malgré la contestation persistante autour du résultat de la présidentielle du 29 décembre dans son pays. M. Embalo était mercredi à Niamey au Niger. Au programme du leader bissau-guinéen ce jeudi et demain vendredi, une visite au Nigeria, siège de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, médiatrice historique dans les querelles politiques en Guinée-Bissau. Oumaro Sissoko Embalo avait commencé sa tournée mardi à Dakar au Sénégal, où il a eu des consultations avec le président sénégalais Macky Sall, un allié de longue date. Épidémie de coronavirus maintenant, le président américain Donald Trump a annoncé hier soir la suspension pour 30 jours de tous les voyages depuis l'Europe vers les États-Unis. Objectif, endiguer le COVID-19 qui continue à se propager dans le monde. Jean-Roger Bion.
J'ai décidé de prendre des actions fortes mais nécessaires pour protéger la santé et le bien-être de tous les Américains, a annoncé M. Trump lors d'une allocution solennelle depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche. Cette mesure, qui entrera en vigueur vendredi à minuit, 4 heures GMT samedi, ne concernera pas le Royaume-Uni, a précisé M. Trump. Il a par ailleurs appelé le Congrès américain à adopter rapidement une réduction des taxes sur les salaires pour aider les ménages américains à surmonter l'impact économique de l'épidémie de coronavirus. Cette proposition faite par son administration en début de semaine n'a pas eu un écho très favorable auprès des élus, y compris de son propre parti. Le président a aussi annoncé le report de la date butoir de paiement des impôts pour certains individus et entreprises qui devraient permettre, selon lui, de réinjecter 200 milliards de dollars de liquidités supplémentaires dans l'économie. Wall Street a connu une nouvelle séance noire mercredi. Le Dow Jones s'est effondré de 5,87% et le Nasdaq a perdu 4,70%. Les États-Unis ont dépassé mercredi la barre des 1200 cas d'infection au nouveau coronavirus et 38 personnes en sont mortes, selon les statistiques de l'université américaine Johns Hopkins.
Violence en Irak pour terminer. Les dirigeants irakiens et l'ONU ont condamné ce jeudi les tirs de roquettes ayant fait 3 morts, dont 2 soldats américains et un britannique, mercredi soir. Peu après, des raids aériens ont visé des positions de supplétifs de l'Iran à la frontière entre l'Irak et la Syrie, tuant 26 paramilitaires irakien.